Très bon réveil si vous nous rejoignez. Voici le journal de Benoît Bouscarel. Bonjour Benoît.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. À 76 ans, Bernard Tapie retourne devant les juges. L'homme d'affaires sera jugé à partir d'aujourd'hui pour escroquerie et détournement de fonds. À ses côtés, 5 autres prévenus. C'est le retour de l'affaire Tapie Crédit Lyonnais, dont l'arbitrage a déjà été jugé frauduleux et annulé. Explication de Florence Turme.
Et puis dans ce journal également de la politique, c'est la dernière semaine du grand débat national voulu par Emmanuel Macron qui hier a pu compter sur la diligence de La République En Marche réunie à Chartres. Le parti de la majorité présidentielle a voulu participer lui aussi au débat.
Reportage d'Élodie Forêt. À l'étranger, au Japon, 8 ans après le tsunami qui a déclenché la catastrophe nucléaire de Fukushima, les autorités tentent déjà de minimiser les conséquences sanitaires de la radioactivité. Il faut dire que les Jeux Olympiques de Tokyo se préparent. C'est pour l'an prochain. Reportage à suivre au Japon de Karine Nishimura.
Et puis Hassan Rouhani en déplacement en Irak à partir d'aujourd'hui. C'est une première pour lui. Omar Waman nous expliquera les enjeux de cette visite officielle de 3 jours.
Dans le billet politique, tout à l'heure après ce journal, il sera question du jeune Charlie et de Greta Thunberg quand les enfants s'investissent en politique. Rendez-vous avec Frédéric Seiss à 8h16. Bernard Tapie et le Crédit Lyonnais. L'affaire qui sera jugée à partir d'aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris convoque des protagonistes et des fantômes semblant tout droit sortis des années 90. À 76 ans, l'homme d'affaires sera jugé aux côtés de 5 autres prévenus, parmi lesquels son avocat Maurice Lantourne et l'ancien magistrat Pierre Estoupe pour escroquerie et détournement de fonds publics. Toujours les suites de l'arbitrage qui avait octroyé à l'homme d'affaires 403 millions d'euros, c'était en 2008, pour solder son litige avec le Crédit Lyonnais. Retour dans les archives judiciaires de ces dernières décennies avec Florence Turme.
Tout commence avec le rachat d'Adidas en 1992. Bernard Tapie est passé maître dans la reprise de sociétés en difficulté, mais celle-ci se solde par un échec et précipite son groupe vers la faillite. L'homme d'affaires se retrouve alors face au Crédit Lyonnais, auprès de qui il s'est lourdement endetté et à qui il reproche d'avoir réalisé une importante plus-value en revendant à nouveau Adidas. La banque fait faillite à son tour. Elle appartient à cette époque à l'État français, contraint de créer un consortium de réalisation pour gérer le passif de l'établissement. Et c'est dans ce contexte qu'intervient l'arbitrage controversé au cœur de l'affaire. 403 millions d'euros octroyés à Bernard Tapie, mais dans des conditions suspectes, ce qui vaudra à Christine Lagarde d'être renvoyée devant la Cour de justice de la République. La ministre de l'économie de l'époque est reconnue coupable de négligence, mais dispensée de peine. Aujourd'hui, son ancien directeur de cabinet, Stéphane Richard, va devoir s'expliquer sur la manière dont cet arbitrage a été organisé. Un arbitrage frauduleux tranchera finalement la justice civile qui condamne Bernard Tapie à rembourser les sommes perçues. Arbitrage sans possibilité de recours pour le Crédit Lyonnais, par ailleurs exclu des négociations, avec en toile de fond les influences politiques glanées sous la présidence Sarkozy. Bernard Tapie et son avocat Maurice Lantourne se seraient assurés en amont du soutien de Pierre Estoupe parmi les 3 hauts magistrats du tribunal arbitral. Pour autant, les juges n'ont finalement pas retenu la circonstance aggravante de bande organisée, ni une quelconque charge contre Claude Guéant placée durant l'enquête sous le statut de témoin assisté.
Florence Sturm. Le grand débat national sera officiellement clos samedi, le 15 mars, comme prévu. On entre donc officiellement dans la dernière semaine de cette initiative lancée par Emmanuel Macron pour tenter de répondre à la crise des Gilets jaunes. Après des milliers de réunions et quasiment 1,5 million de contributions, place désormais aux conférences nationales thématiques. Il y en aura 4 aujourd'hui et mercredi. Le moment est crucial pour le gouvernement qui espère trouver une issue favorable à la situation et qui peut compter sur La République En Marche. Hier, à Chartres, le parti de la majorité a voulu faire ses propres propositions. Reportage d'Élodie Forêt.
Sur la fiscalité ou la démocratie, La République En Marche pose ses jalons, des propositions sincères, dit le patron du parti Stanislas Guérini, pour ne pas décevoir les Français. Jean Gustave, militant MoDem, est sceptique.
Moi, je vais vous dire, ils seront toujours déçus parce qu'ils sont toujours exigeants. Il faut pouvoir leur répondre. Une ou deux mesures fortes, bon, le référendum, pourquoi pas. Après, peut-être la réforme fiscale totale.
Gilles Legendre, chef de file des marcheurs à l'Assemblée, acquiesce. Pour lui, il faut en effet quelques mesures immédiate, d'urgence, mais pas seulement.
Moi, je suis partisan que nous soumettions aux Français une sorte de contrat de refondation du pays, que nous ayons un horizon immédiat et un horizon plus long. On ne réformera pas la fiscalité française en un mois.
La République En Marche, qui sur la fiscalité appelle Emmanuel Macron à plus de justice, proposant d'augmenter l'impôt sur la fortune immobilière. Plus de justice aussi en revenant sur la sous-indexation des petites retraites.
On doit être absolument des producteurs d'idées.
La députée Aurore Berger.
Y compris des idées qui dérangent. Il faut qu'on reste ce poil à gratter et qu'on avance sur un certain nombre d'idées parce que ce sont celles de nos adhérents et qu'on a envie de pouvoir les défendre.
Les marcheurs qui doivent être un aiguillon, conclut Stanislas Guérini, dans cette période charnière entre fin du grand débat et lancement de la campagne européenne.
L'avenir du secteur automobile et notamment de la filière diesel est en discussion aujourd'hui à Bercy. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, doit rencontrer les constructeurs pour discuter de ce que le gouvernement appelle le plan concerté d'accompagnement. Il s'agit de tenter de trouver des solutions pour l'industrie automobile alors que les immatriculations de voitures diesel ont diminué de moitié depuis 10 ans. Du coup, les associations environnementales resteront vigilantes. C'est ce qu'explique Lorelai Limousin. Elle est responsable des politiques de transport au réseau Action Climat. Elle est interrogée par Lisa Guyenne.
On peut craindre que ce soit une tentative de reverdir l'image du diesel, parce qu'encore récemment, on a vu que le diesel était présenté, enfin les nouveaux diesels étaient présentés comme une option propre, alors qu'on sait que même les nouveaux véhicules émettent encore énormément de particules fines et d'oxyde d'azote qui sont très néfastes pour la santé. Et surtout, c'est une réunion donc entre acteurs industriels et le ministre de l'économie, donc sans les acteurs notamment environnementaux et de la santé, alors que c'est un sujet de santé publique et climatique très important. Là, on a l'impression que les discussions vont tourner sur l'appui, le soutien au secteur, sans avoir cet objectif impératif de sortir des énergies fossiles comme le diesel dans le secteur automobile.
8h07 sur France Culture, la suite du journal de Benoît Bouscarel dans les matins. Nous sommes le 11 mars, la date anniversaire de la catastrophe de Fukushima.
Il y a 8 ans exactement, la côte nord-est du Japon était engloutie par un gigantesque tsunami qui a tué près de 19 000 personnes dans les heures qui ont suivi. Raz-de-marée qui a également provoqué l'accident nucléaire de Fukushima. Sur place, les travaux de démantèlement sont prévus pour durer encore plusieurs décennies. Nous allons y revenir. Ce que le gouvernement japonais tente de faire gentiment oublier, tout comme les risques liés à la contamination. Il faut dire que nous sommes à un an maintenant et un peu plus des Jeux Olympiques d'été de Tokyo 2020. Les explications sur place et le reportage de Karine Nishimura.
La région de Fukushima n'est plus sinistrée et il n'y a plus de raison d'habiter ailleurs. Tel se résume le message de Hiromichi Watanabe, ministre de la Reconstruction.
Les ordres d'évacuation ne concernent plus que 2,7% de la préfecture de Fukushima, qui n'est qu'une des 47 préfectures du Japon. Autrement dit, on peut vivre normalement dans une très grande partie de la région de Fukushima.
Certes, les routes à bord des bâtiments et champs sont décontaminées, mais cela ne suffit pas et beaucoup choisissent de ne pas rentrer. Minoru Ikeda a travaillé plusieurs mois à la décontamination de la région.
Pourquoi fait-on ça? Les gens vont-ils revenir? Ce n'est pas dangereux? Je me suis toujours posé la question de l'efficacité de notre tâche.
Selon plusieurs rapports des Nations Unies et ONG, le gouvernement lève de façon discrétionnaire les ordres d'évacuation en ayant au passage augmenté les doses admissibles d'exposition radioactive pour les habitants. Kazuko Ito est avocate.
On se demande si la volonté n'est pas de marquer les graves conséquences de cet accident.
Toutefois, le fait de parler de danger à Fukushima est un tabou qui peut valoir à ceux qui le font d'être traités d'anti-citoyens.
Alors pour ce qui est maintenant des opérations de maintenance au cœur de la centrale à Fukushima, l'opérateur japonais TEPCO se donne 40 ans pour démanteler la centrale accidentée. Les opérations sont très délicates. Il y a quelques semaines seulement, les ingénieurs ont touché l'un des réacteurs fondus à l'aide d'un robot. Précision de Thierry Charles, il est directeur général adjoint de l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Récemment, TEPCO a fait état d'actions qu'ils ont menées sous la cuve du réacteur numéro 2, où un petit robot qui fait en taille quelques dizaines de centimètres et qui est équipé de doigts de quelques centimètres, qui est venu finalement toucher le corium. Mais par contre, avoir atteint le corium, c'est une réussite, mais ça ne suffit pas. Maintenant, l'enjeu majeur, ça va être de définir les opérations qu'il y aura à faire pour aller prendre ce corium sous les cuves des réacteurs, dans des conditions qui sont quand même très difficiles et qui empêchent l'action, bien sûr, de l'homme et imposent de travailler à distance. Donc, si on voit le verre à moitié vide, on va dire ils en font encore loin. Si on voit le verre à moitié plein, on va dire les actions commencent à se mettre en place pour aller vers ces actions-là.
Aujourd'hui est un jour de deuil national en Éthiopie, au lendemain de la catastrophe qui a fait 157 morts dans un crash aérien non loin d'Addis Abeba. Une enquête est en cours pour tenter de déterminer les circonstances de ce drame, mais déjà des questions se posent sur la fiabilité de l'appareil, un Boeing 737 MAX 8, dont un exemplaire s'était déjà écrasé en octobre dernier au décollage à Jakarta. Déjà cette nuit, la Chine a demandé à ses compagnies aériennes de ne plus utiliser jusqu'à nouvel ordre leur 737 MAX 8. Nous saurons cette semaine si le Royaume-Uni va vraiment quitter l'Union européenne à la fin de ce mois de mars, comme c'est prévu. Après des mois d'hésitation, les députés britanniques doivent voter à partir de demain pour dire s'ils valident ou non l'accord que Theresa May a négocié avec Bruxelles à la fin de l'année dernière, ou s'ils reportent le Brexit. À bout d'arguments pour tenter de convaincre les députés de la soutenir, la première ministre Theresa May fait désormais des promesses très étonnantes, dont celle, vous allez l'entendre, de sortir de la politique d'austérité qui a cours depuis plusieurs années au Royaume-Uni. À Londres, Antoine Gignot.
C'est une enveloppe de 25 milliards d'euros, de l'argent destiné aux écoles, à la police, des réductions d'impôts. En résumé, la fin de l'austérité à condition que le Parlement valide l'accord sur le Brexit. Pour convaincre, Theresa May est prête à tout, explique le Times. Elle pourrait même promettre de démissionner après le vote, car la Première ministre n'a plus le choix. Après la défaite historique du mois de janvier, si son accord est de nouveau rejeté demain, le Royaume-Uni entrera dans une zone de turbulence. Les députés pourront démerder mercredi, voter pour ou contre une sortie sans accord du tout, et les débats jeudi pourraient aboutir à une demande de report du Brexit. Les heures qui viennent sont cruciales et les groupes pro-européens comme eurosceptiques font pression sur les élus. En tête de la course, le groupe Britain's Future, qui plaide pour un Brexit radical, a dépensé ces dernières semaines 400 000 euros pour payer des publicités ciblées sur les réseaux sociaux.
Antoine Gignot. En Algérie, deuxième jour de grève nationale aujourd'hui. La population proteste toujours contre la perspective d'un cinquième mandat consécutif d'Abdelaziz Bouteflika qui, de son côté, est rentré de Genève hier après deux semaines d'hospitalisation. Ce lundi, les universités devraient également fermer en Algérie, mais pas en raison de la grève, plutôt parce que le ministère de l'Éducation, pour tenter de freiner la mobilisation étudiante, a annoncé des vacances anticipées et forcées. Les étudiants et les professeurs d'université ne l'entendent pas du tout de cette oreille. Hier, déjà, des assemblées générales ont eu lieu dans les facs et la mobilisation s'organise. Reportage de Leïla Berato.
L'administration ne leur a toujours rien annoncé. Yasmina, enseignante, a appris qu'elle était en vacances via les réseaux sociaux. Comme ses collègues, elle est très en colère.
Soit disant pour eux, ça c'est une décision. Nous, on le prend très très mal. Nous sommes en colère contre ce genre de mépris qui n'arrête pas que de se répéter, et jusqu'à quand on va aller ?
Une assemblée générale a eu lieu dans la matinée. Ce lundi, Riyad, comme d'autres enseignants, se présentera malgré tout sur le campus.
Les étudiants eux-mêmes ne savaient pas comment réagir face à cela. Et moi, ma première position, et je l'assume, je leur ai dit, si j'ai des étudiants devant une salle ouverte, je fais mon cours. Moi, je ne me considère pas en vacances, je suis prêt à faire doublement mon travail, juste pour montrer que je ne suis pas en vacances et que je n'ai jamais demandé à être en vacances en pleine période de travail.
Souila, elle, soutient le mouvement de protestation de ses étudiants.
Je leur ai dit que je suis pour, donc, et avec eux, si je pouvais, je les aider. Je les aiderai. Je leur ai écrit un message leur disant que j'ai l'habitude de corriger leurs copies, mais c'est de loin la meilleure copie que j'ai sous les yeux.
Ce lundi, des sit-ins sont prévus devant les universités pour dénoncer les vacances imposées par le ministère. Un appel à manifester a été lancé pour ce mardi.
Leïla Berato à Alger. À partir d'aujourd'hui, Hassan Rouhani, le président iranien, est en visite officielle en Irak, visite qui doit durer 3 jours. C'est la première fois depuis son accession au pouvoir en 2013 que Rouhani se rend chez son homologue et voisin Behram Saleh. C'est aussi le premier mouvement diplomatique d'importance pour lui dans la région depuis le rétablissement l'an dernier des sanctions américaines contre la République islamique. Les précisions d'Omar Waman.
Le principal objectif de cette visite est officiellement de renforcer la coopération entre Téhéran et Bagdad, alliés depuis la chute du régime de Saddam Hussein il y a tout juste 16 ans. Mais elle intervient surtout dans un contexte de fortes tensions entre l'Iran et les États-Unis. La République des Mollahs vit au rythme des menaces du président américain au relent de guerre psychologique. La dernière a suscité la colère de Bagdad, Donald Trump souhaitant utiliser les bases de l'armée américaine en Irak pour surveiller sa bête noire, l'Iran. C'est surtout de cela dont il sera question entre Hassan Rouhani et son homologue irakien Bahram Saleh, mais aussi de la guerre en Syrie voisine où Téhéran est partie prenante aux côtés des forces de Bachar el-Assad. Le retrait annoncé des troupes américaines après la chute du dernier bastion de Daesh pourrait renforcer le camp pro-syrien, notamment l'Iran, alors même que Washington a toujours fait de l'endiguement de l'influence de Téhéran dans la région une priorité.
Un temps encore instable aujourd'hui, voilà pour la météo. Toujours du vent sur les Alpes, la Corse et toute une partie nord du pays. La circulation des TER dans la région des Hauts-de-France est toujours problématique ce matin. Les températures sont en baisse, pas plus de 15 à 18 degrés au meilleur de la journée.